Alors, Philippiens chapitre 3, c'est parti. Le restant, mes frères, soyez de joie en maître. Vous graffez les mêmes choses, pour moi, certes, n'est pas paresseux. Pour vous, cependant, c'est sécurisant. Alors, on a ce premier verset qui va introduire ce qu'on va avoir par la suite, donc dans ce chapitre. Et il nous dit, récemment, qu'il va nous dire la même chose qu'il nous a déjà dite, n'est-ce pas ? Donc, il y a une sorte de réitération, d'accord, dans les propos que Paul va tenir là. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Paul ? Eh bien, on sait notamment qu'à plusieurs reprises, donc plusieurs de ses lettres, il nous parle de l'évangile en nous disant « c'est par la foi, c'est pas par les œuvres », que ce soit dans Éphésiens, dans Romains, dans Galates, et même encore probablement dans d'autres lettres. Donc, et puis quand on regarde Acte 15, on voit que Paul avait été concerné, avait fait des recherches justement par rapport à cette question de « est-ce que les croyants issus des nations auraient à se circoncire et garder la loi pour être sauvés ?» d'ailleurs. Pour le salut. Donc, c'est quelque chose, à ma connaissance, qui tient au cœur de Paul. Et c'est normal, puisque c'est quelque chose de vital, n'est-ce pas ? Donc, il est probable, rien qu'avec ce premier verset, que ce dont il va s'agir dans les prochains dires, dans ce chapitre, concerne l'évangile. Mais bon, on va voir. Alors, on continue. Regardez les chiens, regardez les malicieux travailleurs. Regardez la totale scission. Bon, ça peut être interprété un peu comme on veut. Enfin, un peu comme on veut. Je dirais de plusieurs manières. On va continuer. Car nous sommes la circoncision, les assouffles d'un Dieu adorant et se vantant en envoyant Jésus. Et non en chair, ayant persuadé. Quoique moi, ayant persuasion aussi en chair. Donc là, on dirait qu'il oppose justement ces chiens, ces malicieux travailleurs, la totale scission, avec nous qui sommes la circoncision. Maintenant, qui c'est nous qui sommes la circoncision ? Eh bien, c'est ceux qui ont cru en Jésus et qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont scellés, qui ont la vie éternelle, n'est-ce pas ? Et donc, il opposerait ces gens-là, qui sont la circoncision, avec les chiens, les malicieux travailleurs, la totale scission. Et donc, on pourrait avoir une définition de ce qu'est un chien, un malicieux travailleur et la totale scission. C'est quoi ? Ce sont des gens qui, bon, pour les malicieux travailleurs, on se doute que ce sont des gens qui travaillent, mais qui travaillent en n'étant pas la circoncision, c'est-à-dire en n'étant pas sauvés, n'est-ce pas ? Donc des ouvriers d'iniquité, n'est-ce pas ? Et on pourrait, d'une certaine manière peut-être, se dire que les chiens, c'est un synonyme de malicieux travailleurs et que pareillement pour totale scission. Et on pourrait, on pourrait dire, par exemple, concrètement aujourd'hui, certains pourraient penser que les personnes qui veulent garder la loi mais qui ont rejeté Jésus, qui rejettent Jésus, sont des malicieux travailleurs ou des chiens. On pourrait penser ça, on pourrait interpréter ça, n'est-ce pas ? Et pareillement, les chrétiens qui ne gardent pas la loi, mais qui disent par ailleurs qu'il faut se repentir de ses péchés, etc., pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que c'est pas par la foi seulement, c'est aussi il faut faire des œuvres, des bonnes choses ou quoi, mais pareillement, on pourrait dire, n'est-ce pas, que ce sont des malicieux travailleurs ou des chiens, ou la totalité, n'est-ce pas ? Donc on pourrait mettre tout un tas de personnes dans ces trois catégories-là, je crois. Voilà, donc on va continuer. « Quoique moi ayant persuasion, aussi en chair. Si quelqu'un d'autre estime avoir persuadé en chair, moi davantage. À circoncision de huitième jour, partie d'un gène d'Israël, de tribu de Benjamin, hébreu partie d'hébreu, selon une loi pharisien, selon un zèle poursuivant l'assemblée. » Selon une justice, selon une loi, c'est en devenu semblable. Donc là, on voit que Paul, vraisemblablement, c'était quelqu'un d'assez élevé, si je puis dire, d'assez sanctifié par rapport à la loi. On voit qu'il était parfait par rapport à la loi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire sans blâme, et qu'il a tout un... Bon, le mot pédigré n'est pas bon, hein, à ma connaissance, mais tout un arbre généalogique, qu'il vient tout simplement d'Israël, et il pourrait se glorifier de toutes les caractéristiques physiques qu'il a. Alors, on continue. Mais c'est quelque chose quelconque qui était pour moi gain. Effectivement, à première vue, c'est un gain. hein, que d'être semblable par rapport à la loi, d'être hébreu, tribu de Benjamin, et d'être circoncis le huitième jour, tout ça sont, à première vue, plutôt de bonnes choses, d'accord, n'est-ce pas? Donc il dit, donc ces choses étaient pour moi gain, mais c'est quelque chose quiconque qui était pour moi gain, ces choses-ci, j'ai gouverné par le fait de le Christ, un dommage. Donc il me dit, voilà, de base, ces choses, bah, c'était des gains pour moi, mais en fait, il s'est avéré que je les ai gouvernées, je les ai considérées comme dommage, comme un dommage. Pourquoi? Comment? Bah, en raison du Christ, en raison de le Christ. Alors ensuite, on va voir en quoi c'est un dommage. Pourquoi est-ce qu'il trouve que c'est un dommage, que c'est dommageable, des choses qui peuvent causer du dommage. Mais certes donc aussi, je me gouverne toute chose être un dommage. Et donc là, c'est encore plus fort. Il dit toute chose, c'est pas seulement voilà, le fait d'être hébreu parti d'hébreu, d'être circoncis le huitième jour. Là, il dit toute chose être un dommage, mais c'est pas tout. Il continue, c'est lié à quoi? Par le fait de ce hypertenant de la connaissance d'un roi, Jésus mon maître. Donc, le fait qu'il considère, qu'il gouverne toute chose comme étant un dommage, c'est lié à quoi? C'est lié à quelque chose, à savoir l'hypertenant de la connaissance d'un roi, Jésus mon maître. L'hypertenant, c'est-à-dire la supériorité, grosso modo, de la connaissance d'un roi, Jésus mon maître. Alors là, on pourrait dire, ok, donc tu vois toute chose comme étant, grosso modo, dommageable, comme étant source de dommages, comme étant quelque chose qui cause des dommages, en raison de la connaissance de Jésus. Et tu nous as fait savoir, tu nous as donné des exemples de choses que tu as considérées comme un dommage, à savoir des choses vraisemblablement qui étaient pour toi des gains, comme par exemple le fait d'être circoncis le huitième jour, d'être d'Israël, d'être tribu de Benjamin, d'être semblable par rapport à la loi. Et donc, bon, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres précisions là-dessus? Est-ce qu'on pourrait clarifier ça? Comment ça, le fait que la connaissance d'un roi, Jésus, te mette dans cet état, te fasse considérer les choses comme ça? Comment expliquer ça? Et donc, on va voir. Et dit donc, ensuite, par le fait duquel, donc en parlant du roi, Jésus, par le fait duquel toutes ces choses, je fus dommagé d'eux, donc toutes ces choses dont je fus dommagé. Donc là, c'est pas seulement qu'il considère ces choses, comme par exemple le fait d'être circoncis le huitième jour, comme un dommage. C'est pas seulement qu'il les considère comme un dommage, c'est plus encore qu'il a été dommagé par celles-ci. Comme il est dit, donc, toutes ces choses, je fus dommagé de, par le fait duquel je fus dommagé de toutes ces choses. Donc, en parlant des choses qu'il a citées, hein, particulièrement juste avant, n'est-ce pas? Donc, on continue. Et je me les gouverne, donc c'est-à-dire je me les considère, si on peut dire, être skibal afin qu'un oint j'ai gagné et que j'ai été trouvé en lui n'ayant pas mienne justice. Donc là, il dit plus je me les gouverne dommage. Un dommage, mais là il est plus fort, si on peut dire. Il dit, je me les gouverne être skibal, je les considère être skibal, ce qui est de l'excrément. Donc là, il appuie ce qu'il a dit juste avant, mais d'une manière un peu plus intense, n'est-ce pas? Et il va donner une autre explication au fait qu'il les gouverne comme ça, au fait qu'il les considère, ces choses, de cette manière-là, comme dommage ou skibal. Il va donner une explication, n'est-ce pas? Il va dire « Afin qu'un oint j'ai gagné et que j'étais trouvé en lui, n'ayant pas mienne justice. » Et je vais continuer. « Celle partie de loi, mais celle par croyance d'un oint, la partie d'un Dieu, justice sur la croyance. » Donc récemment, c'est lié au fait de gagner un oint et d'être trouvé en ce dernier, n'ayant pas notre propre justice. Je vais continuer. Et du fait de le connaître lui et la puissance de son redressement et la communion de ses passions de souffrance étant conforme à son trépas, si en quelque manière que j'ai atteint l'encontre envers le sortant redressement des morts. Pardon, c'est étant conformé, pas conforme. Donc la manière dont on peut comprendre ça, c'est ceci. C'est qu'étant connaissant le Seigneur, connaissant sa puissance et enfin connaissant sa puissance de son redressement, c'est à sa résurrection, et ayant communié, étant dans la communion de ses passions, de souffrances, étant conformé à son trépas, n'est-ce pas? On peut partir de ce principe que il a une certaine connaissance du Seigneur et un certain vécu avec le Seigneur. On pourrait dire qu'il a été baptisé, par exemple, par le Seigneur. Pour reprendre un peu ce qui est dit quand il dit « Si en quelque manière que j'ai atteint l'encontre envers le sortant redressement des morts. » Donc, en partant de là, on peut dire « Afin qu'il ait gagné Christ et qu'il ait été trouvé en lui, non avec sa propre justice, il considère ces choses des skibales et des dommages. » Et ça, dans le sens de « Il doit les considérer ainsi pour avoir gagné Jésus-Christ et ne pas être trouvé en lui avec sa propre justice. » Voilà comment on peut comprendre ça. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce qu'on a lu pour l'instant, à partir du verset 3, ça veut dire que Paul, par rapport au fait de gagner Christ, eh bien, il va considérer toute chose comme étant dommageable, et notamment les choses qui poussent à se croire saint et suffisamment saint pour aller de sa propre force au paradis, il va les considérer comme du caca, comme de l'excrément, comme des skylabes. Parce qu'effectivement, en étant hébreu d'hébreu, circoncis huitième jour comme il fallait, on connaît sa tribu, on n'est pas perdu, on est semblable par rapport à la loi. En gros, on est au top du top. Quelqu'un qui est comme ça au top du top, elle pourrait se dire « Bon, j'ai besoin de rien, moi je suis suffisamment fort pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle, etc. » Mais du coup, toutes ces choses-là qui poussent à cette mentalité, bah, par rapport au fait de gagner Christ, ils considèrent que c'est des skylabes. Donc, ils ne rejettent pas le fait d'être pharisien ou le fait d'être de la tribu de Benjamin ou le fait d'être circoncis le huitième jour. Il ne dit pas que ça, dans l'absolu, c'est mal. Mais il dit que pour avoir la vie éternelle, eh bien, il ne va pas considérer ces choses-là. Voilà. Il va dire qu'il considère ces choses-là comme des skylabes pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout en mesure de me donner la vie éternelle. C'est des skylabes à côté de la vie éternelle, si je puis dire. À côté de comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle, si je puis dire. Donc là, Paul n'est pas du tout en train de dire que il a arrêté de garder la loi ou qu'il a arrêté d'être zélé ou d'être pharisien ou d'être israélite. Non, il dit pas du tout qu'il a arrêté tout ça. Donc j'ai déjà dit ce qu'il veut dire. Et finalement, ce qu'il nous a dit là à partir du verset 3, de ce qu'on a lu, c'est un peu le même discours que ce qu'il disait en Éphésiens 2:8 par exemple ou en Romains ou en Galates, à savoir que le salut n'est pas par les œuvres mais par la foi. Quelles que soient tes œuvres, même si tu es parfait au niveau de la loi, sans blâme par rapport à la loi, que tu es d'Israël, que tu as plein de choses bien, circoncis le huitième jour, etc., c'est pas ça qui va te donner la vie éternelle. Voilà. Donc effectivement, là, comme il dit au verset 1, Paul nous réécrit les mêmes choses, grosso modo. Sauf que là, particulièrement, en l'occurrence, il parle de lui et de ses œuvres à lui. Et dit, grosso modo, ces œuvres que je fais, c'est pas ça qui va m'amener au ciel. Mais ça veut pas dire, il n'est pas en train de dire ces œuvres que je fais sont mauvaises, il ne faut pas que je les fasse ou je sais pas quoi. Il n'est pas en train de dire que la circoncision le huitième jour, c'est mauvais et qu'il ne faudrait pas le faire. Il dit plutôt, donc, ces œuvres-là ne me donneront pas la vie éternelle, ne me feront pas gagner Christ. Donc voilà un peu ce qu'il en est pour l'instant. Donc finalement, là, on est sur de l'évangile, on parle de l'évangile. Là, Paul, il parle de l'évangile et il parle de l'évangile avec sa propre personne, si je puis dire, en guise d'exemple. Donc on va continuer, verset 12. « Non en ce que déjà je prie ou déjà j'étais perfectionné, je poursuis cependant si aussi que j'ai totalement pris. C'est sur cela qu'aussi je fus totalement pris sous l'effet de le Christ Jésus. » Bon là, il n'est pas spécifié ce qui serait pris quand il dit « Non en ce que déjà je prie ». Certains voudraient peut-être y voir le Saint-Esprit, le salut, la vie éternelle. D'autres, comme moi, y verraient plutôt le prix, la récompense de fin de course. Et sur ce, bah, cette expression de « non à ce que déjà je prie », je la vois un peu comme un synonyme de non à ce que je suis déjà arrivé, non à ce que j'ai déjà terminé la course. Dans le sens de, finalement, j'ai encore besoin, enfin, ce qu'on devrait comprendre finalement de ça, c'est ce qui veut dire par là, n'est-ce pas aussi, c'est j'ai encore besoin, j'ai encore à travailler, à faire des œuvres chrétiennes, je suis là pour ça, et je ne suis pas à un stade où je n'aurai pas à faire d'œuvres chrétiennes. Moi aussi, j'ai à faire des œuvres chrétiennes, je suis encore en vie, je suis sur terre, donc je n'ai pas fini, entre guillemets, mon travail. J'ai des choses à faire. Dieu m'appelle à faire des choses, n'est-ce pas? Et si jamais j'avais tout fini, que j'avais plus rien à faire sur terre, que j'étais parfait, eh bien, je continuerais, vous entendu, à faire ce que je fais, n'est-ce pas? Je poursuivrais. Mais de toute façon, ça n'a pas vraiment de sens de dire si jamais j'avais plus rien à faire sur terre parce que on n'est pas dans ce cas de figure-là. Et du coup, donc ça, c'est quand il dit je poursuis cependant, c'est aussi que j'ai totalement pris. Et après, il dit, c'est sur cela qu'aussi je fus totalement pris sous l'effet de le Christ Jésus. Sous-entendu, c'est pour ça, c'est-à-dire pour cette mentalité, je dirais, que je fus totalement pris par Jésus Christ. Et c'est quoi cette mentalité? C'est la mentalité de dire, ou plutôt de ne pas dire, je vois. Il y a beaucoup de religieux, comme c'était l'époque, comme les pharisiens à l'époque, qui disaient, je vois, n'est-ce pas? Ils disaient, nous, on n'est pas aveugles, nous, on voit, nous, on sait. Et qui, du coup, ne remettaient pas en question leur doctrine, ne recherchaient pas, n'éprouvaient pas, connaissaient déjà tout, soi-disant. Mais en fait, ils étaient dans l'erreur sur pas mal de choses, n'est-ce pas? Et du fait qu'ils disent « je vois », bah, ils ne progressaient pas, ils ne changeaient pas, ils ne se repentaient pas. Alors que si ils n'avaient pas dit « je vois », qu'ils étaient là en mode « on va vérifier, on va chercher, on va tester, on verra, et on verra si c'est vrai ou pas si ». S'ils avaient été dans cette mentalité beaucoup plus humble et sainte, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quelque chose qui aurait, à ma connaissance, plu au Seigneur. Et vraisemblablement, à ma compréhension, Paul a été dans cette mentalité-là. Et c'est sur cela qu'aussi, c'est sur cela que Jésus, à ma compréhension, a totalement pris Paul, a saisi Paul. Et bon, pour faire une petite aparté quelques instants, moi, personnellement, je considère avoir besoin d'une femme. Et le truc, c'est que, à ma compréhension, il y a la plupart des chrétiens qui sont dans l'erreur concernant la loi. Mais la loi, ce n'est pas un petit sujet. Le fait qu'un chrétien ait gardé la loi, c'est grosso modo lui dire comment il devrait vivre. C'est remettre en question toutes ses coutumes, toutes ses manières de faire, toutes ses habitudes. C'est changer son train de vie, grosso modo. Donc, ça a une grosse répercussion, de grosses conséquences. Et le truc, c'est que si les chrétiens disent « on voit », eh bien, on ne va pas pouvoir faire qu'ils se repentent de leur mensonge, de leur faute. Et donc, ce ne sera pas possible pour moi, à ma connaissance, par exemple, de me marier avec une de leurs filles, n'est-ce pas? Parce que leur fille sera en mode non, moi, je crois qu'il ne faut pas garder la loi, ou elle ne voudra pas, à ma compréhension, remettre en question ça, ou elle aura du mal, ou ce sera vraiment peut-être mal vu. Pourquoi ? Parce qu'elle dira, Dieu ne plaise, je vois. Alors qu'une non-chrétienne, elle ne dira pas, je vois, normalement. Donc, ce sera beaucoup plus simple de lui donner la vue. Je prétends pas faire, mais de lui montrer que eh bien il faut garder la loi, etc. Et à cause de ça, peut-être que je serai obligé de me tourner vers des non-croyants, de les convertir et ensuite d'en faire ma femme. Ce qui est dommage, je trouve, un peu triste. Mais voilà, je pense que c'est important de pas dire je vois, ou en tout cas pas le dire sans avoir bien testé et éprouvé et remis en question grosso modo pas mal de choses. Et je pense que Jésus, voilà, il cherchait aussi des enfin encore aujourd'hui, je dirais, mais surtout, je pense, mais à l'époque, au début du christianisme, je pense qu'ils cherchaient des gens comme ça pour justement pouvoir leur donner la foi, en fait. Faire qu'ils aient la foi, n'est-ce pas? Et cette mentalité, elle continue un petit peu, si je puis dire, quand il dit, verset 13, « Frère, moi-même, je ne me calcule pas avoir totalement pris. » On pourrait aussi le comprendre, je pense, comme signifiant « Je ne me calcule pas avoir totalement tout compris ou avoir une connaissance parfaite à 100%, me souvenir de tout ce qu'il faut me souvenir, etc. » On pourrait aussi interpréter la chose comme ça, n'est-ce pas? Et après, il va dire quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est « Une chose cependant, deux points. » Là, il veut nous dire quelque chose. Ces choses, certes, nous voyons les choses dont on a parlé juste avant, donc par exemple le fait qu'il est circoncis huitième jour, gêne d'Israël, etc. Ces choses, certes, je suis ce surremettant derrière. Effectivement, ces choses-là, il les oublie, il les jette derrière lui par rapport au fait de gagner Christ. Donc, d'une certaine manière, ces choses-là, il les jette. Il les jette à la poubelle, si on peut dire, d'une certaine manière. Mais de l'autre, à ces choses cependant, donc par rapport à ces choses cependant, je suis ce surétendant de vers. C'est-à-dire, je m'étends dedans, vers ça. Je vais dans leur direction. Je suis lié à ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, il va jeter ces choses-là, et de l'autre, il va les garder. Alors, pourquoi il va les jeter? Pour gagner Christ, pour avoir gagné Christ, pour l'évangile, il les jette. Mais de l'autre côté, il les garde. Pourquoi? Pour la vie chrétienne, pour les œuvres, pour le verset 14, je dis, pour le prix de la en haut appellation de le Dieu. Voilà pourquoi et ce qu'il se surétend de vers à ces choses-là. Voilà. Selon une visée, je poursuis envers le prix de la en haut appellation de le Dieu en envoyant Jésus. Donc voilà, donc pour l'appellation de le Dieu, pour le prix de cette appellation-là, il se surétend en devers ces choses, à ces choses-là. Mais pour gagner Christ et ne pas être trouvé en lui avec sa propre justice-là, il considère ces choses comme des skibales, comme des dégâts. Il les jette derrière lui, il les oublie, grosso modo. Donc ça, c'est, comme il dit, une chose cependant, deux points. Ces choses, certes, je suis ce surremettant derrière. À ces choses, cependant, je suis ce surétant en devers. Donc, il nous donne vraiment cette nuance-là que il ne jette pas tout. Quand il oublie ces choses-là, eh bien, il les oublie pas complètement. Il les oublie pour l'évangile, pour gagner Christ, mais sinon, il les garde. Et ça, c'est très fort, je trouve. Heureusement qu'on a ce passage-là. Parce qu'il nous montre que Paul n'a pas cessé, vraisemblablement, d'être pharisien, d'être zélé, d'être semblable par rapport à la loi, d'être israélite, d'être circoncis le huitième jour, etc. Et pourquoi? Pour le prix de la en haut appellation de le Dieu en envoyant Jésus. Et il dit au verset 25, au verset 15, « Autant lesquels donc de parfaits, ceci que nous sentions. » C'est-à-dire, autant qu'il y a de personnes parfaites, que nous sentions ceci. C'est-à-dire qu'on ait ce sentiment-là, qu'on ait cette mentalité-là. Tous ceux qui sont parfaits, qu'ils aient cette mentalité-là. Autant qu'il y a de parfaits, autant qu'il y ait cette mentalité. Ce ressenti, ce sentiment. Qui est quoi finalement? Qui est les saintes œuvres, les œuvres que Dieu me demande de faire? Eh bien, je ne les considère pas, grosso modo, pour l'évangile. Je les regarde comme des dommages ou des skibales pour gagner Christ. Mais je ne les abandonne pas pour ma vie terrestre par rapport donc à l'appellation de Dieu. C'est-à-dire donc, je continue de les pratiquer. Je m'étends en devers elles. Donc après, il dit, et si une quelconque chose différemment vous sentez, aussi ceci, le Dieu vous découvrira. Alors bon, à première vue, ce passage n'est pas forcément hyper simple à interpréter, à comprendre. Mais je dirais, finalement, je donnerais comme interprétation l'interprétation la plus simple, si je puis dire, à savoir que, tout simplement, Si jamais vous voyez qu'il y a, ou si jamais il y a une différence entre vous par rapport à la mentalité, eh bien, sachez grosso modo que Dieu vous le fera savoir. Donc, grosso modo, c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas du fait de ne d'être ou non en parfait accord et uniformité par rapport à la mentalité. Si jamais il y a une différence entre vous par rapport au sentiment, à la mentalité, Dieu vous le fera savoir. Donc voilà comment je propose de interpréter ce passage. Mais après, il dit, toutefois, envers ce qu'elle nous devançâme, donc notamment le fait de mettre d'une certaine manière de côté nos œuvres par rapport au salut, de les oublier carrément, de les considérer comme des excréments, et puis de l'autre, de les pratiquer, par rapport notamment, je dirais, à cette mentalité, n'est-ce pas ? Paul dit, donc toutefois, envers ce qu'elle nous devançâme, eh bien, à la même chose, avançant en ligne à règle, la même chose sentir. C'est-à-dire, il y a une espèce de loi qui dit, si on avance ensemble avec cette mentalité, avec cette règle-là, eh bien, on sentira la même chose, c'est-à-dire on aura la même, une espèce de même cœur, si je veux dire, même âme, même sentiment, même mentalité, logiquement. Donc finalement, on pourrait comprendre qu'il faudrait qu'on ait cette règle, donc afin justement qu'on ait un même sentiment en nous, un même cœur, même âme, n'est-ce pas, une même mentalité. Donc cette règle qui nous dirait, ces choses certes, je suis ce surmettant derrière, à ces choses cependant, je suis ce surmettant en devers. Donc là, c'est un peu l'hypergrâce, hyperloi. Hypergrâce, j'oublie ça, donc j'oublie mes œuvres. Hyperloi, je suis surétendant, ce surétendant vis-à-vis de mes œuvres. Je suis dedans, quoi. Je suis dans les œuvres. Donc Paul continue en disant, mais co-imitateurs devenez-vous, frères, et visez ceux ainsi piétinant autour, selon comme vous nous avez un modèle frappé. Donc là, ça rejoint un peu cette idée de groupe, de communauté, où on a le même sentiment, cette règle de l'œuvre chrétienne. Je l'oublie pour ce qui est de gagner Christ, pour ce qui est de la vie éternelle. En revanche, je la garde pour la vie sur terre, par rapport à mon appel sur terre, voilà, pour faire ce que Dieu m'appelle à faire, me demande de faire, n'est-ce pas ? Et donc là, Paul dit, ben voilà, soyons un, imitez-moi et pareillement, regardez, observez, visez. Viser, c'est mieux. Oui. Viser ceux qui marchent comme ça, en fait. Comme on vient de dire, Osmoser. Ils voient leurs œuvres d'une certaine manière, selon l'Évangile ou selon leur appel sur terre. Donc après, il continue en disant, « Car nombreux piétinent autour, lesquels nombreuses fois je vous disais. Maintenant, cependant aussi, pleurant, je dis, les ennemis de la croix de le Christ, ils sont. Desquels l'achèvement et des perditions, desquels le Dieu et la cavité ventrale et la gloire est en leur honte. » Ce, les choses sur terre s'entend. Ok. Donc là, il nous avertit d'une certaine manière en ce que, eh bien, c'est pas tout le monde qui est comme Paul et ceux qui l'imitent. C'est pas tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est forcément naturel chez tout le monde. Et qu'il y a des personnes qui font, grosso modo, n'importe quoi, qui sont dans l'erreur et, de la faute, et dans la faute. Donc, sous-entendu, ne faites pas comme eux, ne marchez pas comme eux, mais imitez Paul et marchez et visez ceux qui marchent comme Paul. Donc là, on commence un peu à revenir vers ce qu'il disait au début du chapitre, quand il parlait des chiens, des maliciers travailleurs, de la totale scission, et qu'il opposait ça, n'est-ce pas, à nous qui sommes la circoncision. Et donc, il continue au verset 20 en disant « Car notre acte de citoyenneté dans des cieux subsiste. » Et donc là, récemment, on rejoint le fait qu'on ait la circoncision, partie duquel, donc partie de cet acte-là, aussi un sauveur, nous attendons longuement un sauveur, Maître Jésus soin, lequel transschématisera le corps de notre bassesse envers le fait de se devenir lui conforme au corps de sa gloire, selon l'énergie du fait de se pouvoir lui-même aussi sous-ordonner à lui-même toutes les choses. Voilà. Donc voilà pour un peu pour le chapitre 3 de Philippiens. Et Je crois que j'ai déjà entendu des chrétiens qui avaient pu dire, oui, Paul, avant il était pharisien, avant il gardait très bien la loi, et pour Christ, il a arrêté tout ça. Mais les gens qui ont cette mentalité par rapport à ce chapitre n'ont pas compris ce chapitre, à ma connaissance. Et je dirais même, non, je crois, j'ai l'impression, pas compris l'évangile, parce que si on ne comprend pas l'évangile, on aura du mal, à ma connaissance, à comprendre ce chapitre. Et je pense que s'ils avaient compris l'évangile, ils auraient compris ce chapitre, comme j'ai donné mon interprétation, ma compréhension de ce chapitre-là. Donc, toutes ces personnes qui disent ça, voilà, que Paul aurait arrêté de garder la loi pour Christ, aurait arrêté d'être pharisien pour Christ, aurait arrêté de je sais pas, d'être israélite pour Christ, etc., aurait jeté tout ça pour Christ. D'une certaine manière, c'est vrai pour gagner Christ, pour avoir la vie éternelle, c'est vrai, mais dans sa vie de tous les jours, c'est faux. Voilà, il y a une petite nuance à voir et qui est écrite, n'est-ce pas? Alors, juste du coup, pour revenir sur le verset 8, quand il dit que il se gouverne, c'est-à-dire considère, n'est-ce pas, toute chose être un dommage par le fait de se hypertenir la connaissance d'un ou un Iesus, mon maître. Juste, vu que je ne suis pas revenu clairement dessus, que j'avais dit que je reviendrai un peu dessus, qu'on verra par rapport à ça, ou en vérité, on a vu ce qu'il en était indirectement par rapport à ce que dit le texte dans la suite. Donc vous avez compris, je pense, ce que ça veut dire. Mais du coup, je vais dire clairement, grosso modo, ce que ça veut dire. Ça veut dire que toute chose est un dommage dans le sens que toute chose est potentiellement une occasion de chute quant au salut. Voilà. Bon, après, quand on est sauvé, quand on est déjà sauvé, c'est plus vraiment une occasion de chute. Ça l'est surtout pour les autres, en fait. Voilà. Et du coup, toute chose, c'est surtout dans le sens toute œuvre. Bien qu'en réalité, il y en a certains qui pourraient dire, oh, je suis israélite parce que mon père était israélite et ma mère aussi. Et du coup, ils pourraient se dire, ah, du coup, je vais pas aller au paradis. Du coup, là, ce serait pas vraiment une œuvre, ce serait plutôt un fait. En mode, ah, j'ai cet ADN, je viens de telle famille, donc j'aurai une place pour elle. Non, c'est pas basé sur qui tu es, ou n'est-ce pas, ou ce que tu fais, que tu vois, c'est basé sur est-ce que tu as cru en Jésus. Voilà. Donc, de manière générale, oui, on peut dire toute chose, mais dans les faits, bah, en réalité, c'est plutôt toute œuvre. Hein. Mais comme je l'ai dit en exemple, bon, on peut étendre ça plus que les œuvres, comme par exemple l'ADN et d'autres comme ça. Donc, bon, on peut dire toute chose. Mais bon, dans le grec, il n'y a pas vraiment le mot chose, c'est sous-entendu. Alors, je me permets juste de revenir sur le verset 2, sur la fin du verset 2. Car je pense que certaines personnes pourraient discuter de ça, notamment par exemple si quelqu'un prend la traduction Martin 1744, où on peut lire Prenez garde à la circoncision. Et peut-être que certaines personnes pourraient dire, ah tu vois, il faut faire attention à la circoncision, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas garder la loi, il ne faudrait pas garder la circoncision par exemple. Sauf qu'en réalité, dans le texte grec, ce n'est pas le mot circoncision qu'on a, c'est un autre mot. Et en témoigne les autres traductions françaises en général, comme par exemple la Darby qui va pas mettre circoncision, mais qui va juste dire concision. Alors, pas la Darby révisée, la Darby révisée va mettre circoncision, mais la Darby de 1885 va mettre concision, n'est-ce pas? La Grosjean, c'est-à-dire la Pléiade, va mettre incision. La, par exemple, la Hostie étrinquée va mettre les faux circoncis. La NBS va mettre mutilation. Voilà grosso modo ce qu'on va avoir en général. La Lausanne va dire incision et va mettre en variante coupure. Donc on voit que c'est vraisemblablement pas forcément et pas apparemment circoncision au vu de toutes les traductions qu'on a qui ne mettent pas circoncision. Et effectivement, dans le grec, c'est pas péritomé qu'on a, mais c'est un autre mot qui est katatomé. Donc c'est différent. Alors, par conséquent, cette traduction de Martin 1744, elle n'est pas vraiment valide. Et donc, l'argument derrière, qui s'appuie sur cette traduction, n'est pas non plus vraiment valide, vraisemblablement. En tout cas, ce ne sera pas suffisant d'utiliser seulement cette traduction, n'est-ce pas, pour un argument du style « on n'aurait plus à garder la circoncision ». Alors, quelle traduction conviendrait le mieux à ce mot « katatome » ? Et par rapport au contexte, honnêtement, à ma compréhension, c'est « totale scission ». Une totale scission, une totale coupure. Alors, comment j'interprète cela ? J'interprète comme ça. C'est les personnes qui sont coupées à la fois au niveau du sexe, donc qui ont une circoncision, mais qui sont aussi coupées de Dieu. Pourquoi et en quoi ? En ce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Donc, ça parle de qui, grosso modo ? Ça parle des Juifs qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui sont coupés au niveau du sexe et qui sont coupés au niveau du cœur, si je puis dire, au niveau de la relation avec Dieu. Donc, c'est une totale coupure, une coupure à la fois au niveau du sexe et à la fois dans la relation de la personne avec Dieu. Donc, Paul nous dit, regardez ces gens-là. Comme il l'a dit justement, regardez les malicieux travailleurs, regardez les chiens. Donc, dans le sens que ce genre de personnes ne sont pas des exemples. Ce sont des personnes qui sont comme des personnes boiteuses. Il y a une partie qui peut aller, mais l'autre qui va boiter, qui ne va pas être en bonne santé, si je puis dire, qu'on ne devrait pas aspirer à avoir. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette fin du verset 2, du verset 2 de Philippiens 3. Et juste, je précise, quand j'ai dit que la meilleure traduction de katatomé, à ma connaissance, à mon sens, selon le contexte, c'était totale scission. Quand je dis selon le contexte, c'est surtout et aussi et avant tout selon le dictionnaire. Premièrement, selon le dictionnaire, et ensuite, je regarde le contexte. Et selon ces deux choses-là, à ma compréhension, à mon sens, la meilleure traduction, c'est totale scission. Car grosso modo, le dictionnaire va te dire que ce mot peut signifier scission de haut en bas, scission complète, c'est-à-dire totale scission, contre-scission, incision, coupure, tranchée, action de détacher par une incision. C'est un peu le sens auquel je suis arrivé, la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et d'ailleurs, dans notre dictionnaire, par rapport à ce sens, il met justement la référence Philippiens 3.2 dans le Nouveau Testament. Donc, récemment, on n'est pas à côté de la plaque. Et ce dictionnaire, c'est le BEI.